Sud Radio Débat, Christine Bouillot.
Allez, on vous attend également sur ce débat, ces débats qui vont s'ouvrir avec nos chroniqueurs ce matin. David Corsero, bonjour.
Bonjour.
Député Modem du Val d'Oise. Ergun Toposlan, bonjour.
Bonjour.
Porte-parole de Territoire de Progrès. Avec nous également en ligne, c'est Régis de Castelnau. Bonjour Régis.
Bonjour.
Avocat, auteur de ce blog Vue du droit et auteur de Justice, une justice politique aux éditions de l'Artilleur et membre de la rédaction Front Populaire, Alexandre Malafaï. Bonjour Alexandre.
Bonjour.
Président du think tank Sinopia. Alors, au menu aujourd'hui, on va parler du prix de la baguette. On sait très bien que ce prix du pain est un sujet sensible parce qu'il peut déclencher des révolutions, ne l'oublions pas. Mais entre l'énergie et le pain, est-ce que le pouvoir d'achat des Français est de plus en plus en danger? On parlera de la séquence d'Éric Zemmour hier à Drancy. Est-ce que vous avez été choqué ou pas par cette séquence, notamment avec cette femme qui portait le voile? Et puis le nucléaire sera donc indispensable à la transition énergétique et écologique en France, mais à quel prix? On y reviendra avec vous. Mais on va commencer par vos coups de cœur et vos coups de gueule. Tirage au sort, Ergun, c'est à vous. On commence par un coup de cœur pour un livre.
Exactement. Le livre de Maria Pourchet, Feu, donc, qui traite un thème assez banal, l'adultère bourgeois, mais qui le fait d'une manière assez intéressante, avec une plume incroyable de cette autrice que j'ai découvert à travers ce livre, mais qui a déjà écrit des romans depuis quelques années. C'est un livre qui est sélectionné dans plusieurs concours littéraires, notamment le Goncourt, et donc on espère, en tout cas j'espère qu'elle sera sélectionnée pour cette année-là. L'intérêt aussi que j'ai eu pour l'autrice, c'est que je viens de la même région, de Lorraine, elle vient d'Épinal, et en tout cas elle traite un thème assez banal, mais d'une façon assez intéressante. Elle est dans l'innovation et la modernité dans l'écriture, et puis à chaque page, on se retrouve avec d'énormes punchlines tout au long de ce livre. Donc c'est entre cette femme d'une quarantaine d'années qui tombe amoureuse d'un homme qui travaille dans le secteur bancaire, une femme mal aimée avec un homme qui ne s'aime pas. Donc il y a tout pour un amour passionnel qui se retrouve au fur et à mesure des pages destructif pour les deux. Et au final, on a entre nos mains un livre vraiment qui nous fait voyager dans cette modernité avec un thème qui est assez historique, donc ces fameux adultères bourgeois, comme je l'ai dit tout à l'heure.
Ça s'appelle Feu de Maria Pourchet aux éditions, vous avez
Fayard.
Chez Fayard. Et en course pour le Goncourt, c'est la période des prix littéraires d'ailleurs en ce moment. Alexandre,
oui.
Coup de gueule.
Ah oui, un coup de gueule contre en fait la menace qui plane actuellement sur le secret professionnel des avocats. Alors je rappelle pour nos auditeurs que
important.
Le secret professionnel des avocats, c'est vraiment une garantie essentielle du droit de la défense et c'est aussi la garantie du procès équitable. Et c'est un droit qui est encore plus important pour les justiciables que pour les avocats. Alors il y a une loi qui est en cours d'examen, de vote, qui s'appelle la loi pour le confiance dans l'institution judiciaire. Elle n'est pas très bien nommée quand on voit la façon dont ça se passe.
Ouais.
Alors en pratique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans cette loi, vous avez un dispositif qui a été introduit dans le cadre d'une commission mixte paritaire entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Alors qui va... Là, les avocats étaient d'accord, qui va clarifier les choses en matière d'intention d'un avocat de contribuer à une activité délictueuse de type terroriste, blanchiment, crime, fraude fiscale, etc. Là, si l'avocat est complice de son client, potentiellement, il peut être mis en cause par le juge. En revanche, il y a un deuxième alinéa qui est beaucoup plus vicieux et qui dit, je vous le lis, le secret professionnel est levé dès que l'avocat fait l'objet de manœuvres ou actions aux fins de permettre... de façon non intentionnelle, la commission ou la poursuite ou la dissimulation d'une infraction. Donc en clair, ça veut dire que vous êtes chef d'entreprise. Vous demandez à votre avocat de vous informer sur ce qu'il en est, par exemple, du recours au dispositif de chômage partiel. Et puis vous prenez les conseils de votre avocat pour justement, puisqu'il vous aura dit de quelle façon il faut se comporter et ne pas se comporter. Vous vous comportez mal. On tombe sur vous, le juge enquête et décide effectivement de remonter jusqu'à l'avocat alors qu'il n'a rien fait. Ça veut dire que ça donne au juge le pouvoir d'aller chez l'avocat dans son cabinet professionnel, perquisitionner à son domicile et ça sur tous les sujets qui sont aujourd'hui couverts par une infraction possible, imaginable. C'est une vraie menace sur le secret professionnel des avocats, sur la garantie de liberté et ça crée une instabilité juridique qui est invraisemblable. Alors à ce stade, c'est suffisamment grave pour, à mon avis, que le gouvernement s'en saisissent, parce que les avocats qui ont été très malmenés durant ce quinquennat déjà, qui sont mis en grève plusieurs semaines, la profession est très menacée par la façon dont l'exécutif se comporte à son égard. Les avocats vont à nouveau se mettre en grève, ils saisiront le Conseil constitutionnel parce que c'est une menace extrêmement grave qui plane sur leur droit d'activité et sur les justiciables. Et ce qu'il faut souhaiter, c'est que le gouvernement reprenne la main, parce qu'il est le seul en dernier ressort à pouvoir contrer cet amendement.
Régis, sur ce volet-là, ouais, Régis.
Merci pour ce coup de
gueule.
Ce coup de gueule, parce que moi j'ai hésité un peu, effectivement, je suis concerné, Il faut savoir que le secret professionnel en France, en matière pénale, est anéanti. Il faut le savoir. Quand je dis qu'il est anéanti, on a une jurisprudence de la Cour de cassation qui l'a malmené complètement. Il y a eu la fameuse affaire de la fameuse des écoutes de Nicolas Sarkozy. Juste un petit détail. Vous savez comment ça se passe aujourd'hui ? C'est-à-dire qu'on peut mettre effectivement les gens sur écoute et quand ils parlent à leur avocat, comment est-ce qu'on fait ? Ben, on transcrit la conversation, hein, et puis il appartient au juge d'instruire qui est en train d'instruire, de faire le tri entre ce qui relève du secret professionnel et ce qui relève pas, c'est-à-dire qu'il sait tout. Hein. Non, ouais. Je veux dire, tout ça, ce sont des plaisanteries. Hein. Aujourd'hui, il y a toute une tendance et effectivement, cet amendement, il est totalement liberticide, surtout que la perquisition est devenue un outil d'investigation. Oui, alors, il y a les écoutes téléphoniques, évidemment, mais la perquisition, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est devenu un sport à Paris. Hein, la plupart des juges d'instruction, surtout ceux du pôle financier, surtout Serge Tournaire, hein, qui est aujourd'hui à Nanterre, hein, passent leur temps à aller chez les avocats. Il y a eu, y compris, des incidents assez graves, hein, entre le représentant du bâtonnier, parce qu'il faut qu'il y ait un représentant du bâtonnier pour justement qu'on fasse bien le tri entre ce qui peut être investigué et ce qui ne peut pas l'être, ce qui peut être saisi, ce qui ne peut pas l'être. Eh bien, aujourd'hui, malheureusement, on va mettre dans la loi une atteinte supplémentaire à un secret professionnel. Dans les pays européens, il est intangible. Je ne parle même pas de la Grande-Bretagne, qui n'est plus un pays dans l'Europe, enfin dans l'UE en tout cas. Non, tout ceci est très grave.
On a du mal à croire qu'avec Éric Dupond-Moretti comme garde des Sceaux, ça puisse aller au bout, hein, pardonnez-moi, mais il sait mieux que quiconque ce qu'est que le secret professionnel d'un avocat avec son client. Non,
comme je le disais, le gouvernement peut reprendre la main, puisque c'est lui en dernier ressort qui peut modifier la loi qui sera présentée à l'Assemblée pour le vote vers la mi-novembre.
Mais je ne comprends pas la finalité, parce que quel est le but recherché à part diminuer le pouvoir des avocats?
C'est le contrôle de l'État sur la société, c'est une dérive, et là c'est certainement pas Éric Dupond-Moretti qui l'a voulu, parce que c'était pas dans le texte initial, c'est certainement une main un peu invisible, comme ça peut arriver à l'Assemblée et au Sénat, qui est peut-être celle de Bercy, qui voit d'un bon œil de pouvoir aller un peu plus loin dans ses investigations lorsqu'il y a n'importe quelle problématique, notamment liée à des problèmes fiscaux ou autres.
Ouais, David, à l'Assemblée, ça parle de ça ou pas?
Écoutez, moi j'ai plutôt de nature à être transparent avec vos auditeurs, j'ai pas travaillé sur ce texte. Donc je le connais pas plus que ça, puisque ça fait partie de la commission des lois, c'est pas ma commission. Maintenant que la commission paritaire est passée, comme vous venez de l'expliquer, c'est que les deux chambres sont mis d'accord. Donc le dernier recours, vous l'avez expliqué, c'est un amendement du gouvernement, soit de suppression sur cet article, qui viendrait intervertir avant le vote. Là, aujourd'hui, franchement, comme je ne connais pas le dossier, je ne vais pas vous dire de bêtises ou sauteries. Je peux regarder si vous voulez après.
Avec plaisir. Voilà.
Bon, on va revenir dans un instant après l'info, la pub et l'information sur les coups de cœur et les coups de gueule de nos chroniqueurs du jour, qui sont David Corsero, Ergun Toporslan, pardonnez-moi, Régis de Castelnau, Alexandre Malafaï. On va s'arrêter un court instant, on va continuer à débattre tous ensemble juste après la pub et l'info de 11h sur Sud Radio. À tout de suite.
Sud Radio Débat, Christine Bouillot.
Et on continue de débattre avec David Corsero, qui est député MoDem du Val d'Oise, Ergun Toporslan, je vais y arriver, Toporslan, porte-parole de Territoire de Progrès, je vais y arriver, Régis de Castelnau, qui est avec nous, avocat, avec son blog Vue du Droit, auteur de Justice, une justice politique aux éditions de L'Artilleur, et membre de la rédaction Front Populaire, et puis Alexandre Malafaï, président du think tank Sinopia. Avec vous, Alexandre, on parlait de votre coup de gueule concernant la remise en cause du secret professionnel des avocats, et Régis, c'était de votre avis. Et Régis, qui a aussi un coup de gueule ce matin.
Alors, je vais être à front renversé, je vais me plaindre d'une décision beaucoup trop indulgente. Un tribunal de Munich a condamné une ex-membre de Daesh qui a été rapatriée, je ne sais pas dans quelles conditions, en Allemagne, et qui était poursuivie pour des atrocités tout à fait établies et évidentes. Pour la petite histoire, elle avait acheté une esclave yézidi et elle a laissé sous les yeux de cette esclave mourir de soif la fille de 5 ans qu'avait cette esclave, entre autres. Hein. Et donc, elle a été condamnée à une peine de 10 ans de réclusion, ce qui est quand même assez, je veux dire, surprenant. Enfin, surprenant, c'est-à-dire que symboliquement, Je pense que ce sera très très mal perçu. C'est très mal perçu. Il y a beaucoup beaucoup de polémiques autour de ça, sachant que ça intervient dans un contexte un peu particulier, qui est celui des campagnes qui sont lancées, que je peux comprendre, hein, pour rapatrier les enfants et leur mère qui étaient partis faire le djihad en Syrie et en Irak. Donc, je trouve malheureusement que c'est un très très mauvais signal qui est envoyé, qui va encore braquer les gens concernant ces campagnes pour le retour, et que même si je suis pas pour des peines vertigineuses, mais ce que je dis, c'est qu'une peine, même si elle est très longue, quand elle est prononcée, elle a une dimension symbolique, hein, pour les gens, pour les opinions publiques, et ensuite dans la vie. Hein, dans la longueur, il y a toujours des mesures de libération quand c'est justifié, etc. Donc, cette décision est véritablement un très, très mauvais signal.
Un commentaire sur ça ?
Oui, c'est un très mauvais signal, et ça rajoute encore du trouble à la façon dont finalement les gens perçoivent le rôle de la justice, qu'elle soit française ou en dehors de France.
Sur ces notions, en tous les cas, sur ces crimes commis au nom de Daesh, une harmonisation européenne aussi, ça serait peut-être...
Ouais, je crois que c'est compliqué pour des états de droit, surtout sur des crimes qui potentiellement été commis dans d'autres pays, les prouver, les condamner dans le pays d'origine, ça, je pense que c'est pas un exercice facile en termes de droit. Après, sur la portée symbolique, évidemment, on peut que partager.
Et encore plus d'harmoniser les peines. C'est là où c'est plus compliqué.
C'est encore plus compliqué.
C'est clair. Bon, David, justement, vous avez la parole. Alors, vous avez un coup de cœur pour quelque chose dont on a parlé dès hier, proposé par Anne Hidalgo.
Exactement. Moi, j'ai un grand coup de cœur puisque je suis signataire d'une tribune en mars dernier sur le droit de vote à 16 ans, puisque aujourd'hui, dans tous les sujets qu'on va aborder, on va prendre des décisions pour l'avenir. Et c'est pour ça que moi, je suis très content que la maire de Paris ouvre le sujet sur le droit de vote, parce que ça ouvre deux choses. Déjà, d'une, ça ouvre le fait de se dire, est-ce qu'il faut modifier le droit de vote en France? C'est une vraie question qui est là aujourd'hui, il va falloir statuer. Et deuxièmement, ça permet aussi de dire qu'il faut peut-être modifier la manière dont on vote. Que ce soit le vote électronique, le vote par correspondance, c'est aussi ça, avoir une nouvelle démocratie qui s'exprime. Et c'est intéressant parce qu'on a des positions sur des candidats qui sont différents, mais à la finale, on revient tous sur le sujet pour se dire qu'il faut faire vivre la démocratie autrement. Et dans les sujets qu'on va aborder dans l'émission, soit l'énergie, le prix, le pouvoir d'achat, c'est des sujets qui vont engager les Français à venir. Sauf que moi, je vois beaucoup de jeunes qui disent « Mais c'est bien, mais vous prenez des décisions, mais ça nous engage, nous. » Et bien là, il faut prendre des décisions, il faut demander aux jeunes de s'engager pour qu'ils puissent choisir des candidats dans les axes qu'ils souhaitent, tout simplement pour l'avenir.
Dans l'argumentaire d'Anne Hidalgo, elle disait que c'était aussi pour, on va dire, protéger la démocratie et lutter contre l'abstention. Est-ce qu'en votant à 16 ans, on va lutter contre l'abstention?
Non, mais
je rappelle un chiffre, hein, les jeunes ne votent plus, très peu.
Oui, mais justement,
est-ce que c'est en baissant à 15 ans
Moi, je rappelle l'idée que nous soutenions, c'était de pouvoir amener les jeunes à aller voter. On favorisait le fait d'aller voter au municipal, avec un apprentissage scolaire et une théorie sur ce que les jeunes connaissent le mieux. Parce qu'ils connaissent les mieux leurs écoles, leur environnement sportif, parce que ça fait des années qu'ils pratiquent, leur environnement culturel de leur ville, les rues de leur ville, leurs commerçants. Ce qui m'a permis de se dire, c'est qu'au départ, on demande de statuer sur ce qu'on connaît le mieux, sur ce que le jeune connaît le mieux. Et après, pour voir que son vote compte, parce que le maire qui est mis en place a mis des mesures qui aussi touchent les jeunes. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, entre 16 et 18 ans, il y a très peu de mesures qui sont mises en place par les villes quand on a 16 et 18 ans. Si ces électeurs-là votent, ça va changer la politique des villes. C'est aussi ça.
On ne parle pas tout est dans le si, pardonnez-moi.
J'ai mis un avis un peu divergent quand même.
Alors, Alexandre et Régis, ensuite.
Pardon, cher maître. J'ai mis un avis un peu divergent. Je pense qu'à 16 ans, on peut être informé, mais on n'est pas encore suffisamment formé. Si on veut faire participer les jeunes à la démocratie, je pense qu'il y a plein de manières de le faire, mais de là à aller à voter à 16 ans...
Ils ne sont même pas formés à 50 ans.
Non mais on est d'accord, mais dans cette démocratie qui est marquée quand même par le coup de l'émotion de plus en plus et par la vision à court terme et par les impulsions des uns et des autres, je crois qu'on se tromperait à vouloir entre guillemets réparer la démocratie en allant vers ce type de moyens. Je crois qu'il y a beaucoup de leviers pour préparer les jeunes à être aptes à bien voter, notamment dans le cadre de leur parcours scolaire. Et puis je pense que si on doit réparer la démocratie, il faut aller au-delà, il faudra se poser des questions de type vote blanc, par exemple, la vraie prise en compte du vote blanc.
Ça fait partie de l'ouverture.
Sur les jeunes, je pense qu'on commet une erreur. C'est un gadget qui va faire bien sûr le buzz.
Pourtant, à 16 ans, au vote, on est pénalement responsable. On peut aussi choisir de quitter le domicile de ses parents et d'être totalement indépendant. La vraie difficulté, c'est que moi, je me rappelle...
Il faut aller où? Il faut mettre la majorité à 16 ans.
C'est une question. Mais
c'est irresponsable. Il n'y a plus d'autorité. Vous l'avez abaissé à 16 ans.
Sauf qu'aujourd'hui, on demande à
Régis. Ce que je voulais dire, c'est que c'est un pansement sur une jambe de bois. On peut débattre, on peut débattre. Je me rappelle, il y a 40 ans, d'Alain Krivine, moi, j'ai eu le droit de vote à 21 ans. Hein. C'est Giscard qui a changé ça, et je pense que c'était une bonne mesure. Donc, effectivement, aujourd'hui, le problème, c'est que les jeunes ne votent pas. Donc, avant de commencer à dire il faut abaisser à 16 ans, c'est le genre de mesure, ça va être symbolique. C'est proposé par Anne Hidalgo dans sa campagne, parce qu'il faut bien qu'elle trouve des choses pour essayer de décoller, hein, ce qui a l'air très difficile. Et donc, c'est comme le recours au vote électronique, dont je me méfie comme de la peste, hein, sur le plan des problèmes de fraude. Le vote par correspondance qui a été supprimé parce que c'était une source de fraude. Moi, je pense que il faut vraiment s'interroger sur la façon de ramener les Français dans les bureaux de vote et les impliquer dans ce processus démocratique qui est en train de perdre complètement de sa substance. Donc franchement, demain, je ne sais pas, mais aujourd'hui, c'est vraiment un gadget.
Ergun.
Je suis pas tout à fait d'accord sur l'aspect gadget. On a tous souffert de l'abstention monstre qu'on a eu dans les dernières élections locales, régionales et municipales. Moi, ça m'a rajeuni cette proposition parce que c'est une proposition qu'on portait depuis un petit bout de temps avec certains amis. Mais effectivement, il y a des sujets.
Mais est-ce que, pardonnez-moi, vous n'êtes pas déjà vous tous que nous sommes déjà très investis, en tous les cas très avertis sur la politique. Comment on fait revenir aux urnes, pardonnez-moi, tous ces jeunes, 80% d'abstention chez les moins de 25 ans en régional.
Ça fait partie des outils qu'on peut avoir. Le vote électronique peut en faire partie, doit en faire partie aussi, parce qu'on ne peut pas continuer à faire voter uniquement de 8h à 18h un dimanche. C'est très compliqué, en plus, d'autant plus chez les jeunes. Mais ne rien faire, le statu quo actuel ne va rien solutionner non plus. Donc faire des propositions, avancer sur ce terrain-là, c'est tout à fait salutaire pour notre démocratie.
Moi, je rappelle juste, hein, vous l'avez dit tout à l'heure, quand Valéry Giscard d'Estaing modifie le droit de vote, de 21 ans à...
C'est les mêmes débats, je pense.
Exactement. Ouais. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qui vote ? Tous ceux qui ont eu le droit de vote à 18 ans. Qui aujourd'hui tiennent les scrutins ? Excusez-moi, hein, on va être très clair. Hein. Les scrutins municipaux, départementaux, régionaux sont des scrutins avec les aînés, pour des aînés. Hein. Donc aujourd'hui, c'est facile de dire que c'est pas intéressant. Sauf que quand ça a été fait, aujourd'hui, ceux qui votent le plus, c'est ceux qui ont eu l'abaissement du droit de vote. Donc je pense que cette mesure, elle n'est pas inutile, elle ouvre le débat. Au contraire, c'est très intéressant de débattre. Et ce n'est pas qu'une mesure de la maire de Paris, c'est une mesure de différents candidats. Et je pense que dans la campagne présidentielle, il faudra aborder le sujet. Je n'ai pas dit qu'il faut le faire, j'ai dit que ça ouvre le débat, ça permet de réfléchir à une nouvelle démocratie, et c'est ça le plus important.
Donc ça c'est dit, et je pense qu'on va y revenir. Moi je voulais juste revenir sur cette info, hein, sur les recruteurs qui, les trois quarts des recruteurs aujourd'hui s'inquiètent du niveau de français des personnes qui postulent, des salariés. Alors on le savait, dans le classement PISA, le niveau français des élèves en français était relativement assez médiocre, pour pas dire très 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 mauvais. Mais aujourd'hui c'est un vrai problème à l'embauche, ça on pouvait s'en douter, mais c'est surtout, c'est un problème aussi dans le fonctionnement des entreprises, avec des incompréhensions, avec des problèmes de transmission de messages, avec des fautes qui font que votre business parfois se retrouve voilà. Donc si Jean-Michel Blanquer peut faire en sorte qu'on s'attaque véritablement au programme de français, on revienne à quelque chose qui puisse relever le niveau, ça serait effectivement intéressant. On va ouvrir le débat sur l'énergie, il nous reste 3 minutes avant de faire la première pause. Après le pain, il y a maintenant l'énergie, il y a maintenant le pain, les pâtes, on est touché par la hausse du prix du blé sur le niveau mondial, eh bien certains boulangers pourraient augmenter les prix des baguettes. C'est tout un symbole, cette baguette française de 5 à 10 centimes. Alors, le patron des boulangers français, hein, qui exclut une flambée générale, ils disent que ça sera 2-3 centimes, mais on pourrait aller jusqu'à 10 centimes. Alors, le prix de la farine dépend du cours du blé. Il est calculé sur le marché mondial, sur le marché à Chicago, et ça atteint son plus haut niveau depuis 2 mois, tiré par la forte demande mondiale, comme pour d'autres, et qui se conjugue aussi par des productions. Ça, c'est le réchauffement climatique qui est là, une production de blé beaucoup moins importante que prévu. Alors, est-ce que ces inflations générales, en gros aujourd'hui, si on regarde et on ouvre un journal économique, il n'y a que des tensions sur les marchés, cette reprise aujourd'hui est assez anxiogène aussi, mais est-ce que c'est un danger véritable pour le pouvoir d'achat ? On sait combien ce sujet est ultra sensible. Régis, est-ce que Macron peut faire quelque chose d'ailleurs ? Il a dégainé un chèque de 100 euros la semaine dernière, mais est-ce qu'il peut aller plus loin ?
Oui, ça, c'est une mesure assez calamiteuse, toujours sur le plan
symbolique. Il n'y a vraiment rien qui vous satisfait, vous, il faut rien.
Il y avait un côté désinvolte et méprisant qui a été tout à fait perçu de cette façon-là. Je trouvais que cette mesure était tout à fait contre-productive. Alors, elle a amené Arnaud Montebourg à déposer plainte pour achat de voix, ce qui est grotesque aussi. Si vous voulez, cette question de l'inflation, après la crise du Encore Covid, là, oui. elle est centrale. Elle est centrale. Il y a 8% aux États-Unis. Nécessairement, je pense qu'on va l'importer. Y compris dans la structure des budgets des ménages. Le pain peut augmenter. On mange beaucoup moins de pain qu'avant aujourd'hui. Il y a un certain nombre d'évolutions. Mais clairement, je pense que ça va devenir une question d'abord sociale et ensuite politique, évidemment.
Ça va se répercuter sur le prix des pâtes. Il n'y a pas que le pain. Hein, c'est en répercussion. Mais est-ce que ça ne pose pas aussi la question de notre production alimentaire? Notre dépendance alimentaire.
C'est comme toutes les crises, ça met en avant tous les soucis qu'on peut avoir dans le mode de vie. La crise sanitaire l'a prouvé. Le contexte économique nous ramène à certaines réalités qu'on doit maintenant affronter. La réponse du gouvernement, à chaque fois, elle essaye de faire en sorte que pour nos concitoyens, en tout cas les plus démunis, même si ça peut paraître ridicule pour certaines personnes, un chèque de 100 euros, je peux vous assurer que pour pas mal de foyers, ça fait la différence et ça permet de compenser la hausse du prix du gasoil. Et il faut essayer de garder une vision assez macro de la situation, parce qu'il y a la situation évidemment locale, ce qu'on consomme, ce qu'on fait, ce qu'on produit chez nous en France, mais la situation également internationale, et le gouvernement essaie de répondre avec les propositions qu'il a faites jusqu'à aujourd'hui. Derrière, il ne faut pas perdre de vue qu'on a un mode de vie et un mode de fonctionnement actuel qui fait que notre pouvoir d'achat est tout de suite affecté partout. Même si le pouvoir d'achat a augmenté de 8% sur le dernier quinquennat, on sait que les frais fixes que peut connaître une famille sont de plus en plus importantes, comme les téléphones, les abonnements qu'on peut avoir. Le coût de la vie traditionnelle est le plus important, et c'est de plus en plus compliqué de pouvoir satisfaire à tout ça.
Allez, on continue de parler de votre pouvoir d'achat, et vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. Est-ce que ça devient un souci pour vous? Vous regardez de plus en plus les étiquettes quand vous allez faire vos courses, ça peut nous intéresser aussi. Est-ce que vous attendez des candidats à la présidentielle également, qu'ils fassent des propositions très concrètes autour de tout ça? Vous nous appelez 0826 300 300. On y revient juste après la pause. À tout de suite.
Sud Radio Débat, Christine Bouillot.
Et avec nos chroniqueurs du jour, David Corsero, député MoDem du Val d'Oise, Ergun Topaslan, porte-parole de Territoire de Progrès, Régis de Castelnau, ça y est, qui est avocat, on connaît son blog Vue du droit et auteur de Une justice politique, membre de la rédaction de Front Populaire, et Alexandre Malafaï, président du think tank Sinopia. Alors on parlait du prix du pain qui peut déclencher des révolutions, ne l'oublions pas, c'est quand même un sujet ultra sensible depuis la nuit des temps, je dirais, alors qu'on parlait de Germinal au début de l'émission. Vous voyez comme quoi tout ça est lié aussi. Je fais une parenthèse, si vous n'étiez pas là au début de l'émission, Germinal, demain soir sur France 2, très très belle série que nous propose le service public. Ce prix du pain aujourd'hui, très concrètement, est-ce qu'on ne peut pas prendre le problème de l'inflation par celui du question du pouvoir d'achat, mais des salaires, Alexandre?
Oui,
on en parle assez peu quand même.
C'est une question c'est une fuite en avant en fait, parce que en fait le problème dans lequel on est rentré, c'est qu'on est dans un monde où on est en train de se rendre compte que les pénuries sont une réalité. Alors la crise sanitaire a cassé les flux d'approvisionnement et donc pendant quelques temps, et donc ça s'est totalement désorganisé. Et maintenant, comme on est 8 milliards sur Terre et avec de plus en plus de gens qui accèdent à un pouvoir d'achat en tant que classe moyenne relativement élevée, eh bien on va, et que les ressources, vous le disiez tout à l'heure dans votre introduction, liées entre autres à la transition climatique, au changement climatique, etc., il y a plein de choses qui nous manquent, le blé, les ressources naturelles, etc. On arrive au bout de quelque chose et là, on va avoir malheureusement un cycle très long d'évolution à la hausse des coûts d'approvisionnement et des coûts de matière. Alors comment est-ce que ça va se retraduire? Je pense qu'effectivement, on risque d'avoir une tentation, c'est d'augmenter les salaires. Ou alors de faire ce qu'a fait le gouvernement, de dire tiens, on va mettre une prime de 100 euros accordée à 38 millions des Français pour compenser effectivement l'inflation à court terme. Voilà, mais c'est des fuites en avant qui vont avoir comme corollaire de fabriquer de l'inflation. Et là, on rentrera dans une spirale dont on ne sait pas comment on en sortira.
Oui, David Corsero, on n'en parle pas trop. Les candidats déjà déclarés ou presque déclarés, on ne les entend pas trop sur la question du pouvoir d'achat, si, ou je me trompe?
Oh bah, ça dépend qui. Après, il y a certains candidats qui ont leur cible favorite et qui sont graisses sur leur cible.
Non, mais les classes moyennes, c'est quand même un vrai sujet. Là,
il faut savoir
sur le coup.
Historiquement, la question du pouvoir d'achat, c'est une question qui vient systématiquement dans le top 3 des préoccupations des Français et qui est systématiquement dans les présidentielles un point d'argumentation et de développement. Après, vous avez parlé.
C'est même la première. Hein.
Exactement.
Là,
oui,
c'est la première.
Elle fluctue souvent. Après, vous avez parlé, il n'y a qu'un seul revenu qui est basé sur l'inflation, c'est le SMIG, et qui a augmenté dernièrement. C'est le seul.
1%.
Voilà, exactement. Mais c'est le seul qui est basé sur ça. Et effectivement, on peut dire qu'aujourd'hui, vous l'avez très bien dit, maître, justement, qu'aujourd'hui, la question, c'est la production en France. Aujourd'hui, on fabrique de moins en moins de blé. Moi, je vois sur mon territoire, sur le Val d'Oise, j'ai visité la semaine dernière la ferme noire. C'est une ferme avec deux personnes qui travaillent et en plus qui ont développé un potager et ils donnent 100% de ce qu'ils produisent pour aider les familles en difficulté. Et ils disent, il y a des millions de terres à côté agricoles, aujourd'hui, on fabrique plus de blé par exemple. Bah, donc nous, on peut. C'est très compliqué parce que dès qu'on peut fabriquer, bah, on doit importer, on doit aller chercher ailleurs des produits et c'est compliqué parce que tout ça, c'est lié aussi au coût du transport et une nouvelle fois au coût de l'énergie. Donc c'est vraiment, tout est lié en fin de compte. Et c'est ça qui fait progresser systématiquement la perte du pouvoir d'achat parce qu'on a un vrai problème en fin de compte de consommation globale. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Et c'est ça où on a une difficulté. On va en parler sur le sujet après, avec les énergies. Mmh. Que ce soit le coût du transport ou le coût du chauffage, tout est lié en fin de compte. Et tout ça est lié au réchauffement climatique, il faut le dire, tout simplement. Et ça, c'est une question sur laquelle il va falloir avancer, et politiquement, il va falloir vraiment se positionner.
Régis, avec l'expérience qui vous caractérise, est-ce que c'est un sujet à haut risque, là, qui s'ouvre, dossier?
Oui, je pense que... Rappelez-vous comment a démarré le mouvement des Gilets jaunes, hein, c'est un problème d'augmentation des carburants...
Mais pas que Moi, j'ai rencontré des femmes sur les ronds-points qui disaient on réfléchit à acheter un jean au supermarché pour nos enfants juste avant Noël.
Je parle du facteur déclenchant.
Oui.
Je parle du facteur après se cristallise tout un tas d'autres problèmes. Non, ce que je vois, c'est que effectivement, on a des contraintes, on a des impératifs qui sont des impératifs écologiques concernant le réchauffement climatique. Je veux bien, mais la réforme de la politique agricole commune. Alors, je suis pas un spécialiste. Fait l'objet de rapports, même au sein même de l'UE, disant que c'était une catastrophe. Que effectivement, on devient complètement dépendant sur ces produits, complètement dépendant de nos importations. Il y a par exemple, il y a la question des OGM. Hein, moi, j'essaye de suivre ça un peu. Hein, effectivement, beaucoup de spécialistes disent que 8 milliards d'êtres humains, on ne pourra pas les nourrir sans recours aux OGM.
Absolument.
Donc, ça rejoint d'ailleurs ce qu'on va se dire tout à l'heure concernant le nucléaire. Oui. Il y a ces défis auxquels nous sommes confrontés, on les aborde pas peut-être de la meilleure des manières. Pour l'instant, effectivement, on colmate. C'est pour ça que le chèque de 100 euros, c'était colmaté dans la perspective de l'élection présidentielle. Je trouve ça classique. Je dis pas que je trouve ça bien, mais je trouve ça classique. Ça, il fallait bien trouver une mesure.
Alors, Alexandre,
on peut dire qu'il y a aussi une opportunité, alors à la fois de la part des citoyens, mais aussi de la part des entreprises, si elles prennent leurs responsabilités. Les citoyens l'ont fait, puisqu'en fait, vous avez de plus en plus de sites qui permettent d'acheter des objets d'occasion. Les gens revendent leurs vêtements, donc il y a un marché qui est en train de se mettre en place. Donc ça, c'est plutôt une très bonne chose. L'économie du partage également est en train de se mettre en place. Donc tout ça va permettre d'alléger, si vous voulez, la masse, la pression sur les cycles de production. En revanche, il faut que les entreprises, notamment celles qui produisent, prennent leurs responsabilités, parce qu'il y a trop d'objets de biens de consommation qui sont fabriqués pour avoir une durée de vie courte. Prenez la téléphonie mobile, on passe son temps à changer tous les 2-3 ans, c'est totalement irresponsable. On devrait avoir des produits qui durent 5 ans, 10 ans, 15 ans, comme c'était le cas de l'électroménager. Moi, j'ai à la maison une machine à laver, voilà. Ça fait 20 ans qu'elle est là, elle tourne toujours parce que c'était une bonne marque. Voilà, mais je pense que là, il y a un enjeu majeur de la part des entreprises de production pour faire en sorte que ce qu'on achète, à un moment donné, puisse durer ou puisse avoir une deuxième vie, une troisième vie.
Ouais, alors si vous voulez, messieurs, on va enchaîner sur le sujet, effectivement, de l'énergie. parce que c'est la question sous-jacente derrière celle du pouvoir d'achat, parce qu'on parle du prix d'énergie qui flambe, mais est-ce qu'on va dire finalement aux Français que le prix de l'énergie va inexorablement augmenter avec le rapport qui a été remis hier par les experts de RTE, hein, le gestionnaire du réseau électrique, celui qui transporte l'électricité et qui a fait donc une prospective sur les 50 prochaines années ou même avant. Donc il y a 6 scénarios qui sont sur la table avec deux extrêmes, une hypothèse, 100% d'énergie renouvelable d'un côté ou 50 de nucléaire et énergie renouvelable, en gros du 50-50. Pour l'instant, Emmanuel Macron qui pense pencher plutôt pour un espèce de mix. Alors, c'est beaucoup de nucléaire et Barbara Pompili qui dit non, attention, on n'écarte pas non plus totalement le fait d'abandonner un peu le nucléaire au profit des énergies renouvelables. En tous les cas, le débat est ouvert. Est-ce qu'il faut plus encore de nucléaire aujourd'hui et est-ce que les Français sont prêts à payer? Parce que dans les scénarios qui sont proposés par RTE, si j'ai bien lu le rapport, Alexandre, c'est 25 milliards par an qu'il va falloir injecter pour, on va dire, moderniser notre réseau électrique, parce qu'on va avoir besoin de plus en plus d'électricité.
C'est ça.
Qui veut commencer, Ergun?
Moi, ça m'intéresserait. En fait, c'est un sujet qui est assez global, et notamment dans la continuité des Gilets jaunes. En fait, pendant très longtemps, notre modèle, celui qu'on a proposé aux Français, c'était de dire élevez-vous avec le travail, sortez de vos appartements, allez construire un pavillon, mettez-vous en périphérie des villes, achetez 2 véhicules, et ensuite, vous pourrez continuer à faire votre vie, à améliorer votre cadre de vie.
Ça, c'est vrai. C'était comme ça qu'on présentait dans la pub.
C'est revenu en boomerang en disant, tout d'un coup, dans les années, à partir des années 2000, dans notre époque actuelle, on leur a dit, en fait, c'est pas bien d'utiliser la voiture, vous allez utiliser du gazole, on va augmenter le prix du gazole, il faut revenir vers des véhicules électriques, vers des transports en commun. Sauf que quand on dit ça en parallèle, on leur propose pas, on ne leur donne pas la possibilité de le faire, d'aller accéder à ces outils-là. Et en plus de ça, au vu de l'évolution démographique, même de notre pays, mais des pays un peu plus grands comme la Chine, on sait par exemple que la Chine va consommer 50% de plus d'électricité dans les 20 années à venir. Et donc pour accompagner cela, il faut qu'on ait une production électrique qui soit de niveau. Quand je dis ça, je vous parle, et je suis obligé de le dire, parce que c'est mon travail, je travaille pour EDF en tant qu'ingénieur en construction, pas dans la filière de production, mais je construis donc notamment sur les sites de production. Et aujourd'hui, il n'y a aucune énergie renouvelable ou une quelconque énergie qui peut concurrencer le nucléaire dans sa production bas carbone et son coût de vente aux concitoyens. Donc si d'un côté on dit on va se battre pour le pouvoir d'achat, mais de l'autre on dit on va fermer toutes vos centrales nucléaires, on va vous passer vers des énergies renouvelables qui vont coûter beaucoup plus cher. Au final, on est dans la contradiction continue, mais surtout, c'est que le modèle de logement, de cadre de vie, de cadre de travail qu'ont nos concitoyens aujourd'hui ne pourra pas être durable, ne pourra pas répondre durablement aux enjeux écologiques.
Les enjeux sont colossaux, on le comprend bien. On va y revenir dans un instant, juste après la pause sur Sud Radio. Le nucléaire sera indispensable à la transition écologique. C'est ce qui ressort notamment de ce rapport de RTE. On y revient dans un instant avec nos quatre chroniqueurs. À tout de suite.
Sud Radio Débat, Christine Bouillot.
Et on est toujours avec David Corsero, Ergun Toparslan, j'y arrive, Régis de Castelnau, Alexandre Malafaï. On parle du prix de notre énergie, de demain, quelle électricité, comment va-t-on faire ce fameux mix énergétique et à quel coût surtout, puisque le rapport de RTE qui a été publié hier matin dresse 6 scénarios possibles, et notamment celui du mix énergétique entre du nucléaire mais également des énergies renouvelables. Mais tout cela aura un coût aux alentours de 25 milliards d'euros par an et pendant 40 ans, si j'ai bien lu. Alexandre, vous vouliez intervenir?
Oui, moi je crois que sur cette question-là, on a été d'une très grande malhonnêteté à l'égard des Français, parce qu'on leur a promis pendant de nombreuses années le miracle d'une transition écologique, sans jamais leur dire que ça allait leur coûter de plus en plus cher, et ça leur coûte de plus en plus cher. Et c'est d'autant plus irresponsable que, pardon, mais quand on regarde la réalité, par exemple, du bilan carbone de la production électrique en Europe, la France est l'un des meilleurs élèves, si ce n'est le meilleur élève. On produit 5 fois moins de carbone que les Allemands, et 12 fois moins que les Polonais. Et on se met en France, alors qu'on a une énergie qui est propre, alors certes, il y a bien sûr la question des déchets, mais qu'on maîtrise de mieux en mieux, on se met une balle dans le pied avec un scénario à 50-50, avec ce fameux mixte. Moi, je crois que c'est une hérésie. Je pense qu'il faudra avoir le courage de dire aux Français, écoutez, soit on se fait du 50-50, mais vous allez payer 2 fois plus cher à horizon 10 ans votre énergie, c'est ça la réalité, ou alors, vous ne voulez pas payer plus cher, et à ce moment-là, on reste sur un mixte à 75-25 ou 70-30. L'inverse est aujourd'hui une hérésie économique, et alors accessoirement, le fait de se priver de cette filière, ça nous fragilise en termes de dépendance énergétique ou d'indépendance. Ça fait mener quand même une pression sur ce qu'on appelle la continuité du service également, parce qu'il va bien falloir compenser les périodes où on va miser uniquement sur le renouvelable. Donc c'est très compliqué à gérer. C'est une stratégie qui est, je le dis, irresponsable.
Régis.
Alors, on est sur cette question du nucléaire, on est dans une tenaille. Effectivement, C'est la solution, si on parle de réchauffement climatique, si on parle de bilan carbone.
Surtout que le bilan carbone est très mauvais, hein, pardonnez-moi Régis, mais là on a eu les rapports qui ont été donnés, il n'y a jamais eu autant de gaz à effet de serre qui ont été, on va dire, émis sur la planète.
Non, j'aimerais bien, le bilan carbone des Allemands, ce serait assez intéressant, qui ont complètement renoncé au nucléaire, et qui font pression sur nous aujourd'hui concernant justement cette filière nucléaire. Et donc, on a cet impératif, appelons-le comme ça, pour simplifier, du bilan carbone. Et de l'autre côté, on a un imaginaire, on a un côté idéologique et un côté un peu pensée magique, hein, de ces écologistes qui disent que c'est formidable, les sorcières, qui font qu'il y a une prévention contre cette filière qui a permis à la France d'être indépendante, d'avoir effectivement, de pouvoir assurer une énergie plutôt moins chère qu'ailleurs. Je pense que cette tenaille devient intenable. Il va falloir aussi faire de la pédagogie. Hein. Je parlais des OGM tout à l'heure, je parle de certains pesticides de synthèse, etc. Il va falloir qu'on arrête de se mettre dans cette tenaille. Il y a un exemple, je termine, il y a un exemple sur cette question agricole, j'y reviens, qui concerne le Sri Lanka. Le Sri Lanka a été pilote, a mis en place des procédures, plus de pesticides, plus de ceci, cela, etc. Et il se trouve aujourd'hui à lancer des appels internationaux parce qu'il a de nouveau des problèmes de famine, hein, qui sont la conséquence de ces stratégies où on faisait de la surenchère écolo. La question du nucléaire, moi je suis très favorable au nucléaire et je pense que on ne peut non le 1050-50, c'est une hypocrisie noire, quoi. Enfin, je veux dire, il faut savoir que ça va être la ressource qui doit permettre de, un, fournir l'énergie dont on a besoin, deux, lutter contre le réchauffement climatique.
J'ai des chiffres pour l'Allemagne.
Ouais.
L'Allemagne, c'est 208 millions de tonnes de CO2 émis pour la production d'électricité. En France, c'est 22 millions. Donc, c'est 10 fois plus que nous. Et ouais, ils produisent 5 fois plus d'énergie renouvelable en parallèle.
Et
ce qui est un drame, c'est que, par exemple, quand on arrive à un stade où se chauffer devient un luxe pour une grande majorité de Français pendant l'hiver, c'est dramatique.
Absolument.
L'Allemagne a bien quitté le nucléaire, arrêté le nucléaire, comme elle l'a promis, sauf qu'aujourd'hui,
ils n'avaient pas anticipé. Effectivement, ils ont réouvert les centrales à charbon.
Ils payent l'énergie deux fois plus cher.
On va au 0826-300-300. Il y a Renaud qui nous a appelé. Bonjour Renaud.
Oui, bonjour Christine.
Bonjour.
Bonjour. Excellente équipe.
Oui, absolument, je trouve.
Autour de vous.
Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, vous êtes en Seine-Saint-Denis. Est-ce que, déjà, la question sur votre facture d'électricité, vous commencez à y regarder de plus près, ce que vous consommez, ce que vous payez ?
Ça augmente. Donc, on essaie de faire un petit peu attention. On passe dans les différentes pièces
pour fermer la lumière, je connais.
De l'appartement pour faire attention que la lumière ne soit pas allumée.
C'est
dans
pas Versailles ici.
Voilà. Exactement. Mais écoutez, cette question de l'énergie, elle est très intéressante. Alors on a en fait deux problèmes qui sont concomitants. On a le problème d'une forme d'idéologie, effectivement, comme c'était plus ou moins sous-entendu par vos chroniqueurs, l'idéologie de nos amis écologistes qui nous disent, voilà,
c'est une religion,
c'est mal, donc voilà, eux font partie du camp du bien, etc. Et l'autre problème, c'est le problème de l'Union européenne qui nous incite, par pure idéologie aussi, à renoncer à notre puissance en tant que puissance énergétique indépendante par le biais du nucléaire qui nous a été donné, très précieux, par le général de Gaulle, qui nous permet d'être indépendant. Et je suis tout à fait d'accord avec l'un de vos deux chroniqueurs qui disait qu'il faut rester sur un mixte au moins de 75-25, parce que 50-50, c'est absolument du n'importe quoi. Je voulais revenir aussi sur EDF. Le scandale, c'est que, au nom de l'idéologie de la liberté, la libéralisation du marché de l'énergie qui a été entamée par M. Raffarin et M. Chirac en 2002, EDF a été totalement démantelé parce que, à Bruxelles, on refuse les monopoles d'État. Donc, en fait, tant qu'on restera dans cette logique, et tant qu'on restera dans l'Union européenne, dans l'euro, et tant qu'on n'obéira pas, eh bien, je peux vous assurer que les Français, eh bien, ça va se passer de plus en plus mal pour eux. Ils vont s'appauvrir et ils continueront à payer l'électricité plus cher. Moi, je me souviens d'une phrase terrible, prophétique, de ma prof de maîtrise, quand je faisais ma maîtrise d'histoire à Montpellier, à l'Université Paul Valéry, qui me disait « Vous savez, Renaud, on nous promet des lendemains indiens. » Ma prof, qui était de gauche et qui trouvait que Lionel Jospin n'était pas du tout à gauche, parce que lui aussi, il avait signé traité de Maastricht, Amsterdam, etc., etc., et on savait à quelle sauce on allait manger, donc je le redis, c'est une belle phrase, je pense qu'on nous promet des lendemains indiens, mais si les Français veulent continuer comme ça, libre à eux. Ensuite, il y a 2022 avec une présidentielle, il faudra faire des choix. Voilà.
Merci Renaud pour effectivement ce point de vue et ce retour aussi sur des points d'histoire de notre vie politique par rapport à l'énergie et se conjuguera également à un autre dossier si je peux me permettre, c'est celui de l'accès et de l'eau, parce que les centrales nucléaires pour fonctionner, il faut de l'eau et des cours d'eau qui sont aujourd'hui soutenus par ce qu'on appelle des lâchers d'étiage et qui viennent des barrages.
Vous êtes très bien informé.
Mais oui, parce que j'en connais quelques-uns et s'il n'y a pas ces lâchers d'étiage, il n'y a pas de centrale nucléaire qui peut fonctionner. Régis, un point final pour terminer. On va ouvrir le dossier Éric Zemmour dans un instant.
Mais pourquoi moi? On me martyrise.
Mais non, parce que.
Non. L'auditeur, manifestement, c'est pas péjoratif dans ma bouche. Hein, est eurosceptique. J'ajouterais à ce qu'il a dit une chose, c'est que effectivement cette libéralisation du service public de l'énergie,
ouais.
Elle est le fruit de la construction européenne, faut pas oublier ça, ouais. Hein, c'est-à-dire que on a ossifié dans des traités irréformables, puisque il faut l'unanimité, hein, des choses qui auparavant relevaient de la délibération souveraine des nations respectives, hein, et aujourd'hui on est contraint de passer à ça. Alors il y a une petite anecdote amusante. Il y a une
je
entreprise.
Vous rassure, même si on ne l'était pas contraint, on serait passé petit à petit à ça. On va pas continuer.
Avec un résultat magnifique, vous avez des grands ministères, je ne sais plus lesquels. Vous avez la ville de Paris qui avait passé des contrats avec une entreprise privée qui est en liquidation. Bravo. Hein, je me rappelle plus de son nom. C'était la semaine dernière. Joli résultat. Je pense qu'on aura sûrement le jour venu les surcoûts que ça a impliqué pour les structures de la sphère publique qui avaient passé ces marchés. Mais je pense pas que ce soit une bonne chose. Quand on avait un service public de l'énergie en France qui s'appelait EDF-GDF, je pense que ça fonctionnait mieux.
Je voudrais juste ajouter que nos plus grands alliés sont à la manœuvre pour torpiller le programme nucléaire français. Je parle des Allemands, oui. Bien sûr, qui sont très
bien
efficaces,
sûr.
Mais on le dit moins, on le sait moins. Les Américains également, qui voient un intérêt stratégique à nous faire renoncer en fait à cette filière, parce que derrière, il y a la dissuasion nucléaire.
Et il y a dissuasion nucléaire et il y a du savoir-faire également. Donc Emmanuel Macron, qui devrait effectivement annoncer la construction de nouveaux EPR, sans doute avant les fêtes de fin d'année, on aura l'occasion d'y revenir. Allez, il nous reste quelques minutes avant la prochaine pause et on va, ça sans doute notre dernier sujet de cette matinée.
Et
avec
quel sujet
Éric Zemmour qui était donc à
Drancy. On n'y échappe pas.
Non, on n'y échappe pas. Ça fait partie des sujets auxquels, d'ailleurs, le fait d'en parler ou pas en parler, on en parle déjà entre nous quand on prépare les émissions. C'était hier matin dans l'émission sur CNews de Jean-Marc Morandini. Donc Éric Zemmour qui est allé à Drancy, alors dans une émission qui semblait quand même très très bien préparée en amont aussi, avec un casting déjà d'ores et déjà bien pré-réglé, hein, ce qui paraît aussi normal quand on fait une émission de télévision. Donc il n'y avait pas beaucoup d'improvisation, c'est ce que je voulais dire aussi. Et il y a eu cette scène qui a fait beaucoup parler, on va en parler avec vous quatre également. C'est Éric Zemmour qui parle à une habitante de Drancy, cette femme qui a un voile sur la tête, hein, et voilà l'échange que ça a pu donner. Si vous n'avez pas encore entendu cet échange entre Éric Zemmour et cette habitante voilée de Drancy.
Je suis
c'est le texte qui vous commande.
Libre.
Non, madame, vous n'êtes pas libre. Non,
libre.
Ça n'existe pas en islam.
C'est ce que j'inculque et ce que j'éduque à mes enfants, c'est madame. La liberté. Nous sommes en France. Liberté, égalité, fraternité, monsieur
madame.
Zemmour. Respectez uniquement la liberté. Respectez
madame.
La femme que je suis, non pas le foulard que je porte. Juste la femme.
Alors enlevez-le si le foulard n'a pas d'importance.
Mais enlevez votre cravate à ce moment-là.
Mais je l'enlève quand vous voulez.
Mais moi aussi, je
mais la cravate n'est pas un
alors,
pas. La cravate, madame. La cravate.
Voilà, donc dans cette séquence, la fin, vous la connaissez. Il enlève sa cravate, elle enlève son voile aujourd'hui. Est-ce que vous trouvez cette scène choquante, humiliante, scénarisée? Est-ce que ça amène quelque chose au débat aujourd'hui? Bref, il y a beaucoup de portes d'entrée sur cette séquence vidéo. Est-ce que aussi, hein, Éric Zemmour impose ses sujets de campagne aujourd'hui dans cette campagne présidentielle, même s'il n'est encore officiellement pas candidat, qui veut commencer les hostilités? On y va, allez-y.
Ah bah écoutez, moi je vous le dis très clairement, il n'y aura
David.
Pas d'Oscar à venir sur cette scène, hein. Faut être très clair, hein. Enfin, je vais pas vous moquer, mais sincèrement...
C'est du populisme pur.
Mais sincèrement, c'est le plus mauvais scénario qu'on pouvait imaginer. Si le débat politique C'est ce qu'on a vu hier dans cette émission, mais c'est pas du tout ce que les Français attendent. Déjà d'une, mais d'avoir mis la ville où on est né, comme ça, en pâture, d'avoir dressé un bilan de la Seine-Saint-Denis. Moi, j'ai grandi à Saint-Denis. Alors, c'est une ville qui est juste à côté. Drancy, j'y vais régulièrement. La Seine-Saint-Denis, c'est pas que ce qu'on a vu. Hein. Enfin, moi, j'ai honte de ce qu'on a pu voir hier. Enfin, je sais pas qui a écrit le scénario, mais c'était pas du tout ce que j'attendais. Le feedback pouvait être bon de dire on prend un candidat, on va dans sa ville, on va voir l'évolution de la ville et on le fait parler. Ça aurait pu être très très bien, mais la mise en scène, vous l'avez dit, enfin, entouré de gardes du corps. Alors je sais ce qu'on va me dire. Quand le président se déplace, oui, il y a des gardes du corps, mais c'est pas fait de la même manière. Qu'est-ce qu'on a vu hier? On a vu quoi? Un candidat qui était sur ses sujets favoris. On n'a pas vu de pouvoir d'achat. Hein. On n'a pas parlé de pouvoir d'achat. On n'a pas parlé d'énergie. On a parlé de quoi? On n'a pas parlé de ce qui s'est parlé, et sans arrêt, et après, cette mise en scène avec le voile, non, franchement, moi je vous dis, je suis outré par cette scène, outré, surtout parce que maintenant, cette femme, elle est menacée. Je ne sais pas si vous l'avez vu, sur les réseaux sociaux, elle est menacée. Donc j'ai dit, je voudrais lui apporter tout mon soutien, parce qu'on ne menace pas une femme qui ose, sur la place publique et devant les caméras, faire un geste qui est un geste naturel, puisque je rappelle que porter le voile dans la rue et n'est pas interdit par la loi. Hein. Ce n'est pas interdit. Oui, non mais c'est très clair, je trouve que franchement, moi je trouve ça honteux, et encore plus que cette femme, elle est menacée aujourd'hui, franchement je trouve que c'est sidérant.
Ergun.
C'était très malaisant, effectivement, cette scène hier, c'est le mot que je cherchais, c'était très malaisant. Après, je suis pas certain qu'il faille accabler les médias dans tout ça, il y avait cette attente-là, il y a une pulsion qui demande du Zemmour, il y a une tentation, il y en a qui appellent ça la tentation du clown, qui allait mettre en avant un candidat populiste, un candidat un peu hors cadre traditionnel. Zemmour est sur ce créneau, il joue le truc à fond, il parlait de guerre civile, mais finalement, même les gens qui l'ont accueilli, y compris cette dame, ou bien les personnes dans la boucherie, l'ont pas attaqué physiquement ou quoi que ce soit, donc, mais honnêtement, je sais pas ce qu'on pouvait tirer là-dessus, il y avait quelques débatteurs, avec contradicteurs, où c'était un petit peu intéressant, mais c'était très court, et à la fin, de façon très rapide, j'ai pas suivi ça avec grand intérêt, mais plutôt avec une grande gêne, surtout pour cette dame et les habitants de Drancy, parce que je connais quelques personnes qui viennent de Drancy. Et
apparemment, elle n'habite pas à Drancy.
Non, elle n'habite pas à Drancy. Oui, c'est...
Bon, voilà, il y a beaucoup de choses qui se disent aussi sur ce qui ressort de vrai ou pas. On va y revenir avec vous dans un instant. On s'arrête quelques minutes et on se retrouve sur ce sujet avec nos quatre polémistes du jour. À tout de suite.
Sud Radio Débat, Christine Bouillot.
Allez, on continue de parler de la séquence hier à Drancy sur CNews avec donc Éric Zemmour et cette femme qui a retiré son voile alors que lui a enlevé sa cravate pour montrer que l'un et l'autre étaient libres de porter ce qu'il souhaitait. Régis, on était alors, à dire que c'était malaisant, hein, vous étiez d'accord
oui,
avec ce terme?
Oui, alors c'est un terme nouveau. Malaisant, moi je suis pour que la langue évolue, hein, c'est, qui met mal à l'aise, c'est pas mal, je trouve que c'est parce que ça dit bien ce que ça dit.
Bien sûr.
J'étais horriblement mal à l'aise. J'étais très mal à l'aise quand j'ai vu cette séquence. J'avais de la compassion pour cette jeune femme qui est venue. Alors je sais pas si c'était organisé, etc. et tout. J'aurais eu tendance à dire relativement courageusement, elle est venue là avec toutes les conséquences que ça a maintenant, les polémiques, les réseaux, mais ça c'est une espèce de foire d'empoigne. Moi, ce que je voudrais dire à l'occasion de cette petite séquence, c'est que peut-être que Éric Zemmour est en train de trouver ses limites. Il a fait une entrée tonitruante dans la campagne électorale, soyons clairs. Il a créé une véritable dynamique tout à fait incontestable. Les sondeurs qui au départ étaient plutôt, j'y ai quelques amis qui étaient plutôt sceptiques, disent que ils avaient sous-estimé ce poids. Mais il y a eu la séquence du fusil à Millipol. Il y a eu le fait de traiter Marlène Schiappa d'imbécile. Moi, je veux bien. Je dis la même chose. Quand je suis avec mes amis ou en famille, c'est pas un candidat à la présidence de la République qui doit dire ça. Cette séquence, on le voit en train de jouer au bowling, il y a tout un tas de choses comme ça, et je dirais que ça a du sens politique parce que où il est venu dire aussi que Marine Le Pen était enfermée dans un ghetto d'ouvriers et de chômeurs. Ce qui était quand même assez violent et d'une grande vulgarité. Je pense que comme son propos est très ciblé, son cœur c'est véritablement au prétexte de vouloir sauver la France, c'est véritablement la mise en cause d'un certain nombre de choses, en particulier de l'immigration, le grand remplacement, etc. Dès lors que il faut passer à une autre envergure, puisqu'il s'agit d'une présidentielle, là, il trouve ses limites, donc il est en train de remplacer cette difficulté à élargir son propos, il est en train de le remplacer par des coups. Je pense que... alors, je ne sais pas ce qu'il... Je ne vais pas faire de pronostic, mais je pense qu'il est en train de trouver ses limites politiques avec cette dérive.
Limites politiques d'Éric Zemmour, dit Régis. Alexandre, comment vous... Parce qu'il y a eu aussi, hier, il y a eu la séquence aussi très commentée dans la boucherie halal, également. Il faut quand même le rappeler, elle a été très commentée sur les réseaux également.
La télé aujourd'hui, c'est un mix entre information et divertissement. Et donc, dans cette espèce de télé-réalité, la séquence d'hier, moi, je sais plutôt bien joué de la part de Morandini, parce qu'il fait un super, super coup d'audience et il annonce la suite parce qu'il va le faire avec d'autres candidats. Et c'est courageux de la part de Zemmour, qui, même s'il est chez lui, si les séquences sont préparées, entre guillemets, on ne sait pas ce qu'il va se dire, mais en tout cas, il y a quelques-unes qui sont préparées, il faut quand même aller au contact et assumer. Et par rapport à sa dynamique qui vise à faire de la provocation et à faire le buzz et la course en tête, toujours en faisant en sorte que tout le monde lui court après, moi, il me rappelle Donald Trump. Et Donald Trump, personne ne pensait qu'il irait au bout. Il insultait les femmes, il insultait les latinos, il disait des horreurs, il parlait d'un mur, et puis au bout du compte, il a été élu. Donc, je veux dire, il y a une espèce de dynamique aujourd'hui, parce que je pense que malheureusement, l'envie de dégagisme est toujours là, pour toutes sortes de bonnes et de mauvaises raisons, hein, et de crise de défiance envers la démocratie, les institutions, les élus qui y sont autour de la table pour certains d'entre eux, etc. C'est comme ça, et je pense que ce risque de dégagisme à nouveau peut très bien survenir, et à travers un Zemmour, à travers... Et je pense qu'il ne faut pas prendre pour un clown, parce que là encore, quand on le traite de clown, c'est l'image, mais je pense qu'on encourage encore ses partisans à se renforcer et voire à s'élargir.
Comment se fait-il qu'il donne le rythme de la campagne à ce point ?
Parce qu'il est tout seul.
Ah, Régis.
Il est tout seul, les LR sont pas là. Anne Hidalgo, c'est comme si elle n'était pas là, soyons clairs, en plus elle vient de démarrer. Donc, c'est aujourd'hui, Emmanuel Macron n'est pas là, évidemment. Marine Le Pen laisse passer l'orage. Évidemment, il est l'événement. Les médias ont besoin d'une storytelling. Ils ont besoin d'un... Alors donc, c'est tout l'événement Zemmour qui va être remplacé, à mon avis, plus tard par un autre récit, une autre storytelling. C'est pour ça que je pense qu'on est en train de rentrer dans ce moment-là. Alors, ça va prendre un peu de temps. Hein.
David ?
Je pense que vous avez très bien résumé la situation politique actuellement. Il y a un vecteur qui va être important de noter, c'est qu'aujourd'hui, il n'est toujours pas candidat. Donc ça, c'est important. Je pense qu'à partir du moment où il va donner une position très claire et très nette sur le fait qu'il soit candidat ou pas candidat, les choses vont totalement se figer. Parce qu'attention, je rappelle que le tempo d'un candidat, c'est pas du tout la même chose. Un temps de parole qui est compté, des sujets politiques qui sont imposés par la situation française et surtout des réponses apportées. Parce que moi, ce que j'aime depuis le début, c'est qu'il n'y a aucune proposition. Il n'y a que... le fait de monter des Français les uns contre les autres. Il n'y a rien dans le fond.
Permis à point.
Ouais, mais justement, c'est génial. Enfin, c'est une bonne idée, il en faut une pour démarrer. Mais moi, je trouve qu'aujourd'hui, il n'y a pas de proposition. Et le débat politique des présidentielles, c'est la rencontre d'un homme avec les Français.
Est-ce qu'elle n'est pas en train d'avoir lieu ? Pardonnez-moi, je me pose la question. Hein.
Ah bah écoutez, si la rencontre des Français elle a lieu de cette manière-là, je pense que là, on a effectivement beaucoup de choses à revoir en politique, parce que c'est pas la télé-réalité, la politique. La vraie politique, c'est effectivement d'aller voir les Français, de convaincre. Là, moi, j'ai pas vu hier d'échange convaincant. Excuse-moi, enlever une cravate. Moi, je peux enlever ma cravate si vous voulez aujourd'hui avec vous.
Je vous demande
de rien enlever d'autre. Franchement, je pense qu'on attend autre chose. Et j'attends. Moi, je mise sur un point. Je pense qu'il va annoncer sa candidature le jour de l'anniversaire de Charles de Gaulle, au mois de novembre. C'est l'année, je crois que c'est autour du 28, si je me trompe pas, ou voilà. Moi, je pense que ça va être un jour important.
Il déteste trop la 5ème République pour faire ça.
Et je pense que ça va être un point important. Et moi, je fais un pari avec vos auditeurs que ça va être un jour important et qu'il risque de l'annoncer ce jour-là.
Bah, pour moi, ça serait assez contradictoire pour un mec qui déteste autant la République. Au-delà de tout, le fait de l'annonce de sa candidature, qui fait plus aucun doute. Hier, il a ouvert son QG, il y a des soutiens, il y a des affiches partout d'ailleurs. Il respecte pas trop les règles pour des mecs qui parlent d'autorité et d'ordre, mais surtout il est pas passé au rayon X. Le fond de la pensée, nous on dit qu'il est dangereux, on le dit pourquoi, parce qu'on a un peu lu ses livres, on arrive à voir sa vision. Moi, je prétends, je sens, j'ai compris qu'il était anti-républicain et je pense qu'il est dans une contradiction en se présentant la présidence de la République française. Je pense qu'il a un vrai problème avec la République, mais il n'est pas encore passé au rayon X. Et dès qu'il passera au rayon X, il faudra voir alors un peu la réaction des Français, comment les Français vont réagir à ça. Mais il ne faut pas perdre de vue qu'il y a une vraie attente des Français aussi pour des candidatures qui sont hors des cadres partis traditionnels. Et ça, c'est la faute des politiques, évidemment, dans un premier temps, mais aussi des Français qui en ont un peu, qui ont envie de mettre un coup de pied dans la table aussi. Il ne faut pas perdre de vue cela.
Puis en plus, il a raison, c'est raisonnant.
Régis,
je pense que la comparaison avec Donald Trump trouve très rapidement ses limites. D'abord, ce sont deux pays complètement différents. Ensuite, Donald Trump, il a d'abord gagné le Parti républicain, donc il était fort riche, il en avait les moyens. Éric Zemmour, de ce point de vue-là, a une petite équipe autour de lui. Il a quelques jeunes Versaillais qui l'ont rejoint, tout content de pouvoir dire du mal des Arabes. Et donc,
Régis, il y a eu un précédent, il s'appelait Emmanuel Macron, avec une toute petite équipe, il a réussi à conquérir
Et
il faut regarder, Régis, pardon, la séquence de conquête du pouvoir au sein des Républicains lors de la campagne présidentielle, objectivement, il était dans les outrances les plus totales, de manière systématique, en plateau, en meeting, en provocation, et au bout du compte, il a ravi le vote des Républicains qui l'ont investi pour aller à la présidence.
Référence à Emmanuel Macron, cet alignement des astres ne se reproduira plus. Hein. Il y a eu un candidat choisi par la haute fonction publique d'État, qui, dans un premier temps, devait s'allier avec Juppé et Macron à bien manœuvrer, adoubé par les grands intérêts. Tous les grands intérêts, tous les médias l'ont soutenu. Poussé par le Parti Socialiste, il était le candidat socialiste. Il faut être sérieux, ils ont mis Hamon pour faire semblant. Tous les caciques étaient là. Et enfin, j'ajoute qu'il y a eu un coup d'État judiciaire qui fait que la candidature du favori a été disqualifiée par une procédure dont on n'a jamais vu la rapidité dans l'histoire. Hein. Donc, en janvier, il était à 16. Fillon à 24, hein, ça s'est croisé à cause de cette affaire. Ça ne se reproduira plus.
Noté et enregistré, mon cher Régis. Donc on le ressortira au cas où. Hein. Non, je plaisante.
Mais il n'y a pas de problème. Je l'ai écrit dans mon bouquin. Alors bon.
Merci beaucoup, Régis de Castelnau, Alexandre Malafaye, Ergun Toparslan, j'y arrive, David Corsero, d'avoir été avec nous. Dans un instant, André Berkoff qui reçoit Alexandre Delvalle, géopolitologue et écrivain autour et auteur de La mondialisation dangereuse aux éditions de l'Artilleur. Et nous, on se retrouve demain à partir de 10h. Très belle journée sur Sud Radio.